est le studio Kalungu, il est 17h. Tout de suite, le journal en français. À la présentation, je suis Rafika Taher. À la une ce jeudi 19 janvier 2023, ouverture hier de la première session de la chambre criminelle du tribunal de Birninkoni de la région d'Ottawa. Les détails avec le président du tribunal. La troisième conférence africaine pour la paix s'est ouverte mardi à Nouakchott en Mauritanie. Plusieurs recommandations sont faites lors de cette rencontre. La partie magazine de cette édition portera sur la situation sécuritaire à Agadez. Ouverture en début de cette semaine de l'assise de la première session de la chambre criminelle au tribunal de Birninkoni au titre de l'année 2023. 20 affaires criminelles seront jugées pendant les 10 jours de la session. Les détails avec Lawango G, le président du tribunal de Birninkoni, au micro de Assouman Moussa Arzika.
Ce rôle est constitué de 8 dossiers de viol, 1 dossier d'attentat à la pudeur, 5 dossiers d'infanticide, 3 dossiers de coups mortels, 2 dossiers d'assassinat et 1 dossier de meurtre. Il y ressort que près de la moitié du rôle est constitué des affaires de mœurs. Cette propension des affaires de cette nature dénote une menace de nos bonnes mœurs, celle-ci pouvant être définie comme un ensemble de règles imposées par la morale et auxquelles les parties ne peuvent déroger par leurs conventions. C'est pourquoi la justice protège les bonnes mœurs en punissant leur atteinte.
Le phénomène de pédocriminalité prend de l'ampleur dans la région de Diffa. En effet, en début de semaine, un homme de 35 ans a agressé sexuellement un petit garçon de 9 ans. Ce qui a touché la santé de la victime ont annoncé les agents de santé. L'affaire est cependant devant la justice afin de mettre la victime dans ses droits. Adam Boubacar, relais communautaire violence basée sur le genre à l'hôpital de Ngingimi, nous donne plus de détails au micro de Maïna Abdoulaye.
Par rapport à ce viol perpétré, nous avons porté l'affaire devant le juge et l'auteur de ce crime odieux a reconnu les faits. Il a même reconnu 3 cas. L'enfant victime de cet acte était mineur, âgé de 9 ans. Nous dénonçons farouchement cette pratique, surtout au vu de l'état dans lequel nous avons trouvé cet enfant. Les parents nous ont confirmé et assuré qu'au moment où l'acte a été commis, l'enfant vomissait pendant 3 jours sans arrêt. C'est vraiment plus qu'un crime. De tels actes ne font que régresser un pays, détruire l'économie du pays. Selon ce qui a été signifié, il y a une loi qui stipule qu'il y a une condamnation qui peut aller de 20 ans à 50 ans à l'endroit de l'auteur d'un tel acte. C'est la condamnation qui a été demandée et le jugement a été reporté à une autre date.
La troisième conférence africaine pour la paix s'est ouverte le mardi dernier à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Des chefs d'État, des religieux, experts et responsables de forces de défense et de sécurité ont pris part à cette rencontre dans laquelle d'importantes recommandations ont été faites, parmi lesquelles la possibilité de dialoguer avec certains milieux terroristes. Selon Sidi Kaba, analyste et expert de questions sécuritaires au Sahel, vu l'importance de cette conférence, il faut faire le suivi des recommandations. Il est joint par Tarnan Foudé Ahmed.
Cette conférence est un événement important dans la recherche de la paix sur le continent africain et particulièrement dans la zone du Sahel et le bassin du lac Tchad. On a réussi à mettre ensemble les décideurs politiques, les religieux, et les chercheurs et même les militaires. Et tout ça fait que on peut engager d'un commun accord une réflexion qui pourrait faire avancer la cause de la paix. Il n'est pas d'ailleurs surprenant que l'on ait vu justement la prise en compte des questions qui était jusque-là considéré un peu comme tabou, notamment la question du dialogue avec certains milieux djihadistes pour essayer de leur faire entendre raison avec l'aide des religieux. Maintenant, au-delà de résolutions qui sont sorties, il faut prendre des dispositions pour assurer le suivi. Parce que souvent, le défi quand on fait une conférence de cette qualité, c'est le suivi. Et si on ne fait pas de suivi, on va se retrouver l'année prochaine à dire la même chose. Et c'est ça qu'il faut éviter.
Les ministres en charge de la défense des États membres du G5 Sahel ont décidé lors d'une réunion extraordinaire tenue le 10 janvier dernier à N'Djamena de la localisation de l'état-major de la coordination de la force conjointe du G5 Sahel à Niamey au Niger. Toujours selon Sidi Kaba, analyste et expert de questions sécuritaires au Sahel, Jean-Partanal Foudé Ahmed, le transfert du siège de l'état-major de la coordination du G5 Sahel à Niamey peut apporter une valeur ajoutée aux efforts efforts qui sont en train d'être faits pour solutionner cette crise sécuritaire.
Niamey est plus proche que Nouakchott de l'épicentre de la menace terroriste parce que, comme vous savez, il n'est un secret pour personne aujourd'hui que c'est la zone des trois frontières qui est le ventre mou de la réponse sécuritaire. C'est là que se trouvent les activités les plus intenses des groupes djihadistes. Et l'intention du G5, c'est de faire monter en puissance la force conjointe. Et à partir de Niamey, on a une meilleure coordination avec les deux autres réseaux puisque Niamey appartient à la fois au fuseau centre de la force conjointe qui comprend le Niger, le Burkina et le Mali. Et le Niger appartient aussi au fuseau Est avec le Tchad. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, le transfert du siège de la coordination peut apporter une valeur ajoutée aux efforts qui sont actuellement en cours pour obtenir une réponse adaptée aux défis sécuritaires qu'on connaît au Sahel.
Le comité ad hoc chargé de la relecture des textes organiques du Conseil national de dialogue politique, CNDP, a remis officiellement son rapport général au Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou, par ailleurs président du dit Conseil, hier mercredi 18 janvier 2023, au cours d'une cérémonie consacrée à cet effet à Niamey. Tous les trois bords politiques ont salué la qualité du travail et le consensus qui a prévalu entre les acteurs, se réjouit le secrétaire permanent de l'institution, Yahya Garba, au micro de Mokhtar Hamadou.
Vous savez, par le passé, on a eu beaucoup de problèmes, j'allais dire, dans l'interprétation de certains articles du CNDP. Notamment, l'article 7, bon, c'est pas la peine de donner le numéro, mais l'article relatif à la convocation d'une session du CNDP, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. Il y a aussi l'article qui parle de la gestion des sessions du CNDP. Je vais dire la présidence du CNDP qui doit être à la table de séance. Il y a aussi le mode de prise de décision. Voilà, en fait, les points saillants sur lesquels le comité chargé de réviser les textes s'est appesanti. C'est une chose normale parce que le CNDP a été créé en janvier 2004. Parce qu'on avait autour de 42 partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes à 174 partis politiques. Donc, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même réalité. Et c'est normal qu'on cherche à adapter les textes pour les adapter à la réalité actuelle. Il y a eu unanimité parce que le comité ad hoc qui a été mise en place. C'est un comité où il y a toutes les sensibilités et il y a même des personnes de ressources.
La publication des fausses informations sur les réseaux sociaux est devenue un fléau qui gangrène notre société. Pendant 2 jours, l'ONG Al-Hayat, en collaboration avec ses partenaires, ont formé 25 jeunes blogueurs et blogueuses, les défenseurs des droits humains, les médias, les structures féminines de Ngingimi sur les dangers de la publication des fausses informations sur les réseaux sociaux. Idriss Mahamadou, un des organisateurs, explique au micro de Abdoulaye Maina.
La plus grande menace qui pèse sur le journalisme aujourd'hui, c'est la diffusion de fausses informations qui se fait sur les réseaux sociaux. Cette pratique engendre beaucoup de conséquences négatives sur la vie sociale. Il est très fréquent de voir une personne poster une fausse information sur Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Ces personnes n'ont aucune connaissance sur le journalisme. Ils ignorent les conséquences que peuvent engendrer la diffusion d'une fausse information. Premièrement, ça peut toucher le droit humain qui, par ce fait, peut toucher la dignité d'une communauté ou un groupe de personnes. Parfois, ces fausses informations peuvent aussi engendrer l'insécurité. Donc, pour apporter une solution à ces pratiques, il faut que les gens évitent de diffuser de fausses informations. Si l'on n'a pas la véracité des faits, l'épreuve n'est pas normale de les diffuser.
Le collège d'enseignement Aboubakar Souley de Tchirouzérine rencontre assez de difficultés, surtout les mariages des enfants. Cela a un impact sur la scolarisation de beaucoup de jeunes filles, estime Hajia Hawapakot, surveillante au collège. Elle explique au micro de Ahmed Félan.
La plupart des jeunes filles qui abandonnent l'école, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas la moyenne. Certaines, c'est leurs époux qui les empêchent de venir à l'école. Et c'est surtout sur cet aspect qu'on sensibilise les parents pour qu'ils laissent les enfants venir à l'école et ne pas les donner tôt en mariage pour leur propre santé. Actuellement, le phénomène est répandu. On laisse les enfants se marier dès le bas âge. Notre souhait est qu'on les laisse avoir au moins l'âge légal pour se marier et non à 14, 15 ou 16 ans. Beaucoup se sont déjà mariés et ont dit qu'ils laisseront les enfants à la maison et continuer les études. Mais elles n'ont pas pu face à la maltraitance qu'elles subissent de la part de leurs conjoints. Ces phénomènes les empêchent de se concentrer sur leurs études. On a intervenu plusieurs fois dans des cas où la jeune fille étudie et que son mari veut l'en empêcher. On prend son numéro pour l'appeler s'il est hors du pays.
<t'-> Les rencontres du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023 se poursuivent sur les différents stades de l'Algérie. Le MENA Aprim du Niger jouera son premier match demain contre les Diables Rouges du Congo. Quelles sont les attentes des Nigériens? Élément de réponse dans ce Vox Pop réalisé par Salamatou Kadri.
Nous sommes dans une poule de 3 et on était exemptés pour le premier match. Donc les deux ont déjà joué, le Cameroun a battu le Congo-Brazzaville. Donc nous allons jouer demain, Inch'Allah, contre cette équipe du Congo-Brazzaville qui nous sommes appelés à gagner. Et si on ne gagne pas, c'est un problème parce que c'est une poule de 3 et on veut un seul qualifié. Donc il faut absolument gagner les deux matchs pour être sûr de se qualifier.
Comme un slogan qu'on dise, l'impossible n'est pas nigérien. Nous souhaiterons que le MENA prendra sa première victoire demain, mais ça sera un peu difficile pour nous compte tenu de notre champion. Il y en a qui est très faible. On peut ne pas encaisser, mais aussi de ne pas marquer. Parce que nous n'avons pas vraiment un buteur exact.
Pour le match de demain, ça sera difficile, mais pas impossible. Parce que j'ai confiance en notre équipe. Nous avons des jeunes talentueux qui ont vraiment l'ambition de gagner et d'aller loin.
Après plus de 6 mois de la tenue du Forum de la paix dans la région d'Agadez, l'on peut constater que la situation sécuritaire ne fait que se dégrader dans cette partie du nord du Niger. À l'issue de ce forum, certaines recommandations faites et des instructions données par les chefs de l'État n'ont pas été respectées selon le secrétaire général du comité de paix de la région. Qu'est-ce qui est à la base de la recrudescence de l'insécurité? Comment y faire pour y remédier? Réponse dans cet entretien de Boutali Tchiwarène, secrétaire permanent du comité régional de paix d'Agadez, interrogé par notre correspondant Moussa Maman.
Après les forums, il y a eu des promesses. D'abord, les promesses directes. Le président de la République a promis de regrouper les 200 jeunes qu'ils avaient formés à un moment, garde nomade, garde républicain, FNIS, on les appelle aussi. Le président de la République a promis qu'il va augmenter 100 de Tawa, ils vont être 300. On va choisir un endroit sur la frontière algérienne, sur le côté où il y a beaucoup d'insécurité, pour mettre une base de garde là-bas et leur donner les moyens. Malheureusement, c'est pas fait encore. Il y a eu aussi ce problème de contrôle. Le président a promis de mettre l'accent à la police, la gendarmerie, les gardes, pour qu'il y ait beaucoup de contrôle. Non seulement le contrôle des papiers, les vitres filmées, et puis la fouille aussi. Donc les papiers, on a remarqué que ça s'est passé, ce n'est encore. Mais les fouilles, c'est un peu timide. Il n'y a pas beaucoup de fouilles. Pourtant, à Agadez, il y a beaucoup de circulation là-dedans. Il y a des véhicules qu'on ne connaît pas, qui rentrent. Il y a beaucoup d'armes qui circulent dans la région.
Mais qu'est-ce qui fait la permanence de cette insécurité au niveau de la région d'Agadez?
D'abord, l'exploitation de l'or. L'exploitation de notre or a commencé sans organisation. C'était artisanal, il y avait tout le monde qui venait. Notre territoire vraiment est vaste. Même avant, on ne pouvait pas le contrôler, surtout encore avec la présence de l'or. Le deuxième, c'est la drogue. Donc, et déjà, ils sont criminels, mais ils augmentent encore les armes. Et tout ce monde-là, c'est des criminels. Maintenant, l'immigration. L'immigration internationale et interne. La région d'Agadez est peuplée aujourd'hui. C'est pas seulement les villes qui sont peuplées, même les brousses sont peuplées de cette immigration interne et externe aussi. Et internationale aussi. Et tout ça, les gens, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils aient des moyens. S'ils n'ont pas eu de travail, ils vont s'en mettre au banditisme aussi.
Alors, qu'est-ce que le comité régional de paix fait pour remédier à cette situation de l'insécurité récurrente à Agadez?
D'abord, le comité de paix, c'est la sensibilisation. Puis, des rapports et on envoie à l'intérieur.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.